Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Je suis persuadé que vous faites aussi partie de ceux qui se posent la question de savoir s'il faut travailler dur pour changer. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie, si ce n'est pas que par curiosité, de travailler à votre bonheur. Alors bienvenue pour ce nouveau rendez-vous dans lequel, avant de me lancer sur le sujet, je vais vous expliquer une chose qui va être, on va dire, un événement pour ces 30 jours qui sont devant nous, à savoir que pendant 30 jours, je publierai un rendez-vous par jour. C'est ça, vous avez bien entendu. Je serai avec vous tous les jours pendant ces 30 jours. Et ces 30 jours, j'ai décidé de les appeler les 30 jours pour vivre heureux. Ce sont 30 jours pendant lesquels je vais vous donner des éléments tous les jours, le plus concret possible, pour que vous travailliez à votre bonheur sans relâche. Qu'il n'y ait pas un jour pendant lequel vous ne travaillerez pas. Vous y penserez, vous donnerez des éléments, des exercices, des outils, des défis pour que pendant ces 30 jours, vous puissiez faire monter votre bonheur d'un cran, de deux, de trois et de quelques crans en fonction de ce que vous vivez. Si vous passez par une période de dépression, de déprime, de mal-être, eh bien ces 30 jours sont pour vous. Si vous êtes déjà heureux, vous pouvez utiliser aussi ces 30 jours pour augmenter votre capacité à vivre heureux avec les outils que je vais vous donner. Donc, je vous donne ce rendez-vous dès la semaine prochaine pour vivre 30 jours pour être heureux. Donc, dès vendredi prochain, vous aurez le premier rendez-vous et on se retrouvera vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. Il y a même le dimanche, même le week-end, il n'y a pas de repos. Donc, ce sera vraiment tous les jours pendant 30 jours. Allons maintenant directement dans le sujet. On y va droit dans le steak. Faut-il travailler dur pour changer? On a plusieurs éléments dans cette question. Faut-il, la notion d'obligation, travailler, on sent bien le labeur, mais travailler dur, on sent que la notion de difficulté. Et puis, la notion de changement. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter peut-être dans l'ordre. Faut-il ? Alors, je dirais non. Déjà, il est très rare que je réponde de but en blanc à une question. J'aime bien creuser, vous amener à réfléchir. Là, je peux donner mon avis, non. On n'est pas dans la question de bien et mal, comme je l'ai fait il y a quelques semaines. Là, on est sur quelque chose dit clair. Faut-il travailler ? Non. On n'a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation. Ceux qui connaissent Heureux au présent savent que même dans les exercices que je donne dans les rendez-vous, il n'y a aucune obligation. Je travaille en donnant des pouvoirs et non pas des devoirs. Parce que le devoir a le très gros inconvénient de nourrir une possible culpabilité. Et notamment quand on a l'impression de ne pas avoir changé ou de ne pas avoir changé aussi vite ou au niveau que l'on en aurait voulu, eh bien on va commencer à se dire ben, « en fait c'est parce que je n'ai pas fait mes devoirs correctement ». Vous avez passé tellement de temps sur les bancs de l'école avec cette évaluation notée des A, des B ou des 3 sur 20, des 5 sur 20, etc. que ben, si vous aviez des 15 ou des 20 sur 20, vous n'êtes pas tous notés comme je l'étais à mon niveau, même si je le dis en plaisantant, eh bien… Vous avez cette tendance, peut-être nous avons cette tendance à aimer cette vie notée qui est dénoncée notamment par Idrissa Berkane, qui est un des livres que je mets en avant sur le blog Heureux au présent. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, allez voir le blog heureuxauprésent.com et vous verrez que sur la colonne de droite, si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez le livre d'Idrissa Berkane qui est présenté. Si vous êtes sur votre téléphone, ben vous descendez, vous scrollez et vous verrez ce livre qui est présenté dans lequel il dénonce la vie notée en présentant cette vie notée comme étant une vie qui va venir tordre notre capacité à percevoir ce qui est attendu de vivre dans une vie humaine en mettant tout dans des cases, dans des notes, dans des grilles avec des évaluations en permanence. Et quand j'entends cette question « faut-il travailler dur pour changer ?», eh bien la première chose que je voudrais dénoncer, c'est cette impression de vie notée qui fait qu'on a l'impression qu'il faut, on est dans des devoirs, dans des obligations, et que si on ne le fait pas, eh bien comme je l'ai dit, on va nourrir une culpabilité. Et peut-être même, parfois, avoir l'impression de ne pas en avoir fait assez, parce que ou pas fait assez fréquemment. On est dans une forme de contrainte de laquelle je voudrais que vous libériez. Sortez de cette contrainte pour sortir de l'obligation. Vous n'avez aucun devoir, aucune obligation. Et je me réfère au très beau travail de Marshall Rosenberg dans son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » qui avance sur cette notion d'obligation. Vous êtes obligé de tellement moins de choses que vous l'imaginez que je voudrais que vous vous affranchissiez de cette notion d'obligation. Donc d'abord, il n'y a aucune obligation à travailler pour changer. Vous pouvez changer sans travailler. Alors là, vous dites « Ah non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte Pascal, c'est n'importe quoi ». Je vous annonce que sans faire quoi que ce soit, vous changez. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, vous changez. Puisque vous êtes vivant, vous êtes forcément inscrit dans un programme de changement perpétuel. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne change pas forcément dans le sens que je voudrais. Donc, faut-il travailler pour changer ? Faut-il travailler dur pour changer ? Inclut l'idée que, est-ce que je devrais travailler dur pour changer dans le sens de ce que je veux ? Ben, même là, je ne vais pas répondre juste à la question, mais d'abord, sortez de cette notion d'obligation en vous comprenant que vous êtes dans un naturel changement. Ça fait partie de votre identité humaine. Pour que le changement ne s'opère pas, il faudrait faire obstacle à ce dernier. Donc, laissez faire les choses, vous allez changer, puisque vous changez quotidiennement. Il n'y a pas d'obligation. Et même s'il est question de changer dans la direction de ce que vous voudriez, il n'y a pas d'obligation à vouloir changer pour aller dans la direction de ce que vous voudriez. Mieux vaut aspirer à changer, choisir de changer, désirer changer, vouloir changer, que d'être obligé de changer. Dans un autre blog que je tiens qui s'appelle Couple Heureux, couple-heureux.com, je dis même, surtout ne changez pas pour faire plaisir à votre conjoint. Le changement soumis à obligation est le changement le plus éphémère, le plus dommageable. Et vraiment, on n'est pas dans une perspective de progression, de maturation, de maturité, de croissance, de développement de soi. On est dans un enfermement davantage quand on va dans cette notion de changement, quand il est attaché à la notion d'obligation. Donc vous n'avez pas de devoir, vous n'avez pas assez l'âge des devoirs. Maintenant, sortez de cette dynamique-là pour entrer davantage dans le domaine du pouvoir, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, notamment choisir de changer. Vous pouvez désirer changer. Et je dirais même que face à une personne qui a, on pourrait dire, un problème, ou une situation considérée comme étant un problème par un de ses proches, je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais, elle se reconnaîtra peut-être, une personne qui a des accès de colère, voilà, tout simplement, et quand elle se met en colère, ça déménage, ça déchire autour. Même une personne comme ça, on ne peut pas lui demander de devoir changer, d'être dans l'obligation de changement. Parce qu'en fait, on sait d'avance que le changement sera un échec si elle est dans le devoir. Un changement est beaucoup plus fécond si elle envisage de le faire parce qu'elle est elle-même tellement dérangée par la situation qu'elle choisit de changer. Choisissez de changer, désirez changer, aspirez à changer, sans être obligé de changer, est un des gages de succès vers le changement. Ça, c'est un premier point. Je pense que j'ai été clair. Tous ceux qui ont des questions lèvent le doigt. Personne ne lève le doigt. Je plaisante. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez aller sur le blog Heureux au présent, en bas de la retranscription de ce rendez-vous, eh bien, mettre vos questions. Ensuite, est-ce qu'on est obligé, donc, faut-il, donc, je fais la formule, est-ce qu'on est obligé de travailler dur ? Je voudrais juste m'arrêter sur cette notion de travailler dur, peut-être en dernier. Pour m'arrêter d'abord sur la notion de changement, j'ai déjà dit que vous allez et que vous changez de manière naturelle, sans désir, sans aspiration, sans projet, sans obligation, vous changez. Est-ce que vous êtes conscient de changer ? Alors si ce n'est pas le cas, ben j'aimerais que vous le soyez. Parce que c'est quand même génial de se rendre compte qu'on a changé. Vous vous souvenez que quand vous étiez gamin, que vous ne marchiez pas, tout le boulot, entre guillemets, que vous avez fourni pour réussir à marcher, qui n'était pas un travail dur au passage, fermez la parenthèse, mais j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez changé. Vous avez appris à écrire, vous avez appris à lire, à danser, à compter, vous avez appris à conduire, vous avez changé. Vous avez appris à manger les choses que vous n'aimiez pas, vous avez appris à jouer dans un sport ou même un jeu de société, que sais-je, vous avez changé, vous allez changer. Vous êtes inscrit naturellement dans cette dynamique de changement. Par conséquent, la notion de changement, est non seulement naturellement inscrite en vous, mais elle est aussi sujette à évolution en permanence. Il y a des choses que vous avez acquises que vous ne voulez plus, des choses que vous n'avez pas acquises que vous voulez acquérir, apprendre une langue, un instrument, acquérir de nouvelles aptitudes, capacités, savoir-faire, etc. Et en perdre. Donc, la notion de changement est inscrite en vous. Mais je vous repose la question. Est-ce que vous êtes conscient de changer ? Si vous ne l'êtes pas, ce serait intéressant que vous preniez la mesure des changements qui ont été les vôtres. Que vous voyez qu'il y a 5 ans, vous viviez les choses comme ça, vous percevez les choses comme ça, et maintenant, ce n'est plus le cas. Ou à l'inverse, il y a 5 ans, vous ne perceviez pas du tout cela, vous n'étiez pas du tout sensible à ça, et maintenant, c'est le cas. Vous avez changé. Par conséquent, vous changerez. Il n'est pas question de savoir si vous avez changé en bien ou en mal, mais au moins de prendre l'information du fait que vous changez, que vous changerez, et que c'est normal. C'est dans votre programme, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est normal. Vous ne changerez pas comme les autres ont changé. Vous changerez comme vous changerez. Ne cherchez pas à changer pour être comme un autre. Cherchez à changer pour être vous-même. Vous changez. Vous changerez. Prenez conscience de ce changement. Comment prendre conscience de ce changement ? On peut se repasser le film. Et un des meilleurs moyens de se repasser le film, c'est d'avoir un cahier de vie. Je l'explique dans de nombreux rendez-vous, notamment dans le rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même ». Prenez un cahier de vie. Vous avez un cahier sur lequel vous écrivez ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous vivez, ce qui est difficile, ce qui est génial, ce qui est fort, vos gratitudes, vos reconnaissances, vos ingratitudes, vos souffrances, vos défis, vos difficultés, vos succès. Et quand vous feuilletez ce cahier en retour, vous voyez ce que vous avez écrit l'année dernière, puis peut-être il y a 6 mois, puis il y a 5 ans, puis il y a 15 ans. Et vous vous rendez compte que vous ne pensez pas la même chose qu'il y a 15 ans. Que vous avez changé de manière de penser sur le plan ce qui vous concerne dans votre regard sur vous-même, dans ce que vous trouviez génial, dans ce que vous trouvez moche, dans ce que vous trouvez superbe sur un tel, sur telle situation, qu'elle soit politique, sociale, économique, financière, philosophique, psychologique, émotionnelle, relationnelle, artistique, quelle qu'elle soit. Vous avez les moyens de savoir que vous avez changé si vous avez un album qui vous prend en photo sur les évolutions qui sont les vôtres. Que votre cahier de vie soit votre album, celui qui est le témoin de votre évolution, de votre cheminement, celui dans lequel vous êtes vraiment vous, sans vous mentir, parce que vous avez compris que c'est un moyen de découvrir qui vous êtes, comment vous évoluez et à quel point vous changez. C'est clair ? On arrête là, c'était la deuxième étape. Maintenant, je voudrais venir sur travailler dur. Alors, la plupart du temps, quand il y a une notion de travailler dur, faut-il travailler dur pour changer ? On a tendance à avoir dans l'arrière-pensée l'idée de la volonté. Il y en a qui ont de la volonté, donc ils arrivent à travailler dur, parce qu'il faut beaucoup de volonté pour travailler dur. Et ça, c'est un super carburant bourré de mensonges que l'on met dans son propre moteur, en pensant que, évidemment, comme je n'ai pas la volonté de l'autre, ben, je n'arrive pas à travailler dur. C'est trop pour moi. Et j'ai pas la même capacité. Puis lui ou elle, ils ont de la chance. Moi, j'ai pas de chance parce que j'ai pas cette volonté, j'ai pas cette capacité à travailler dur. Et finalement, on se rend compte que cette notion de travailler dur peut se présenter comme étant plutôt une forme d'échappatoire. Je passe au-dessus de la notion d'excuse. Mais vraiment, parce que l'excuse, c'est quand vraiment on essaie de gruger. Là, on est sur un échappatoire qui est plus fort qu'une excuse, dans le sens où on est peut-être complètement inconscient d'être face à cet échappatoire. Alors qu'une excuse, on sait que c'est un petit truc léger qu'on va utiliser pour dire « oui, voilà, bah, c'est bon, ouais, j'ai pas réussi, j'avais pas le temps ». Voilà, il y a un rendez-vous que ça s'intitule « j'avais pas le temps » où j'explique très bien que c'est une excuse. Donc vraiment, on est dans un échappatoire pour éviter de se retrouver en situation, parfois, d'échec. Si je n'ai pas la volonté et que je n'y arrive pas, c'est pas parce que je n'ai pas la capacité que je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai pas la volonté. Et comme la volonté n'est pas donnée de la même manière à tout le monde, eh ben, si je n'y suis pas arrivé, c'est parce que j'ai pas de bol, j'ai pas la volonté, c'est pas de ma faute. Et c'est parfois une manière d'éviter la culpabilité. Parce qu'en plus, on a cette tendance à confondre C'est pas de ma faute et je suis responsable. Hein. La responsabilité et la culpabilité ont tendance à se confondre. Et pourtant, je demande de faire la distinction très claire entre les deux. La responsabilité et la culpabilité peuvent être complètement séparées parce qu'on peut être responsable sans être coupable. On peut être coupable sans être responsable. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je l'ai déjà évoqué, je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur cette notion de travailler dur. N'utilisez pas l'impression de travailler dur comme une échappatoire. L'avantage de penser que travailler dur est nécessaire pour changer a vraiment l'intérêt de faire ce jeu du « c'est pas pour moi, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai jamais parce que j'ai pas de bol ». Par contre, quand on est en mesure de répondre non à la question « faut-il travailler dur pour changer ?», eh bien, on se rapproche d'une capacité à envisager le changement comme étant quelque chose qui est à notre portée. Parce que la question n'est plus de focaliser sur la difficulté. Et quand on se rapproche, on commence à dire, ben en fait, je peux peut-être. Qu'est-ce que vous voudriez répondre à cette question ? Est-ce que, si j'enlevais la notion de difficulté à des changements que vous envisagez, si c'était facile de changer, est-ce que vous changeriez ? Alors, je prends un exemple très concret, vous avez tendance à grignoter, vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé, mais ça vous fait du bien, vous aimez ça, et puis vous dites, mais j'arrive pas à arrêter de grignoter et mes accès boulimiques, je n'arrive pas à les abandonner parce que c'est trop dur, il faut travailler trop dur pour y arriver. Supposons maintenant qu'il ne faille pas travailler dur pour que vous arrêtiez vos accès boulimiques. Est-ce que vous seriez d'accord de changer ? On pourrait prendre un autre exemple, hein, c'est trop difficile pour vous d'arrêter d'insulter ou même peut-être de vous insulter vous-même, de vous dire voilà, je vaux rien, je suis nul, je suis minable, je suis un incapable, de toute façon je suis moche et j'y arriverai jamais. Mais c'est trop dur de changer et de commencer à formuler autre chose en disant mais si, je peux y arriver et je suis pas moche et c'est... Donc, est-ce que si c'était pas difficile pour vous de cesser de vous injurier, de vous flageller, de vous minabiliser, est-ce que vous seriez prêt à changer? Attention, c'est pas forcément évident. Parce que du coup, quand c'est à votre portée, vous vous dites, mais oui, mais non, mais si je change vraiment. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas que c'est parce que c'est difficile pour vous que vous ne changez pas. C'est parce que ça vous branche pas du tout. C'est parce que le confort dans lequel vous êtes actuellement, même si vous êtes boulimique, même si vous vous flagellez en pensant que vous êtes nul, ça vous procure certains bénéfices. Il y a un rendez-vous qui s'intitule « Nous agissons toujours par intérêt ». Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Moi, je voudrais que ce soit bien clair. La réponse à la question « faut-il travailler dur pour changer ?» est non. Il n'est pas question de focaliser sur la difficulté du travail. D'ailleurs, comment mesurer la force ou l'effort nécessaire pour changer ? Vous pouvez faire comment ? Ah ben lui a besoin de moins d'efforts pour changer que moi, même dans le même domaine. Pour cesser de regarder des films porno, par exemple, mon collègue, c'est beaucoup plus facile pour lui que pour moi, parce qu'il a beaucoup plus de volonté que moi. Et comment mesurer la force de la difficulté ? Comment mesurer la force de la difficulté de quelqu'un qui a des accès de colère pour se dire, lui, c'est plus facile pour lui de moins se mettre en colère que pour moi ? C'est plus facile pour elle de faire des économies que pour moi. Moi, je dois faire beaucoup plus d'efforts qu'elle, travailler plus dur qu'elle pour faire des économies. Est-ce que vous pouvez me dire quel moyen vous utilisez pour évaluer cela ? Ah, peut-être son éducation, son milieu social et économique, peut-être son profil, et peut-être le... Non, arrêtez, cessez de rajouter des excuses et des moyens bizarres d'aller arroser votre échappatoire parce que vous n'avez aucun moyen rationnel de mesurer la force ou le travail, la difficulté du travail à fournir pour changer. Aucun moyen. On est dans une réalité complètement subjective, irrationnelle. On est dans son film, dans son mythe. Prenons un exemple. Vous vous souvenez quand vous étiez au collège ou à l'école, quelque part, quel que soit le niveau, mais je prends l'exemple du collège, parce que vous étiez en cours d'éducation physique, enfin moi de mon temps on appelait ça l'EPS, maintenant ça s'appelle je sais pas combien, enfin c'était ou la gym ou quel que soit le niveau, l'activité physique dans laquelle vous étiez inscrit évidemment quand vous étiez au collège. Je vais prendre l'exemple du cross parce qu'on avait trop souvent ça à faire, hein. Le prof se posait au bord du stade et puis on devait faire des tours de stade. Et à la fin du trimestre, ben il donnait une note. Alors, vous aviez 12 sur 20, 15 sur 20, 19 sur 20 ou 5 sur 20, parce que le prof avait évalué sur des critères qui étaient les siens tous les élèves de la classe, les 18, les 20 ou les 25 élèves de la classe, en ce qu'on appelle l'endurance. Comment un professeur peut-il, avec des élèves qui sont issus de milieux complètement différents, qui ont des morphotypologies complètement différentes, des capacités physiques complètement différentes, les évaluer tous sur la même grille en mettant une note sur une échelle de 1 à 20 en endurance? Comprenez l'absurdité parfois de certaines décisions qui font que vous avez tendance, après quand vous avez grandi, à fonctionner de la même manière. Parce que je vous parle de l'éducation physique, mais c'est pareil pour les maths, le français, la langue, etc. Les langues et autres. Une échelle de 1 à 20, un élève, tous les élèves sont évalués sur cette même échelle alors qu'ils n'ont pas les mêmes bases de départ, les mêmes milieux de départ. Comment peut-on mesurer la difficulté d'un élève? On a un élève qui a un 5 sur 20, qui peut être, comme j'ai déjà dit dans certains rendez-vous, un excellent résultat, 5 sur 20, compte tenu de ses paramètres à lui. Mais vu de l'extérieur, 5 sur 20, c'est minable. Par contre, 20 sur 20, c'est magnifique, alors qu'il pourrait avoir 25 sur 20 s'il avait vraiment travaillé. Peut-être qu'il a 20 sur 20 sans avoir vraiment travaillé. Donc on n'est pas en mesure de mesurer la difficulté de l'élève. Comme on n'est pas en mesure d'évaluer la difficulté du travail à fournir pour envisager de changer. C'est donc utopique d'estimer la difficulté pour envisager le changement, parce que pour l'un c'est trop dur, alors que pour l'autre c'est trop fastoche, comme on dirait à l'école. Donc qui a raison? Les deux. Et qui a tort? Les deux. Parce qu'en fait, la notion d'échelle ne peut pas être considérée pour évaluer la difficulté. Oubliez donc la notion de difficulté. Et je vous invite à regarder autre chose. Alors, je vous donnerai trois éléments à regarder. Premièrement, visez l'accès adapté. Finalement, je vais détourner mon regard de la difficulté pour voir si ce que j'envisage me correspond. Pour savoir si ce que j'envisage me correspond, j'ai besoin d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, de connaître mes valeurs, de connaître ma vision de la vie, le regard que j'ai sur la vie, pour faire en sorte que le choix que je vais faire corresponde à qui je suis, à ma vision de la vie et à mes valeurs. Parce qu'évidemment, je vais faire en sorte que mon accès soit adapté en fonction de qui je suis. Ça me permet de me détacher du regard que les autres auront sur ce que je suis en train de faire. Parce que comment peut-il, lui, savoir si l'accès est adapté à ma personne, étant donné que je suis la personne qui me connaît le mieux? Normalement, pour apprendre à me connaître, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de me fréquenter, de me regarder, d'utiliser mon cahier de vie pour voir ce que je pense, où je vais, ce que je pense de ce que je vais, mes valeurs, ma vision de la vie, ce qui me limite, ce que je voudrais vivre au-delà de mes limites, etc. Donc vous êtes censé être la personne qui vous connaît le mieux. À partir de là, vous pouvez viser à accéder à ce qui est adapté pour vous dans votre perspective de changement, en ayant complètement abandonné la notion de difficulté, parce qu'on est loin de la notion de difficulté, si c'est adapté à vous. Ça vous correspond. À partir du moment où ça vous correspond, on peut passer à une deuxième étape qui est de vous poser la question, par où commencer ? Alors, la réponse est simple. Commencez à votre niveau. Ne commencez pas au niveau de quelqu'un d'autre. Ne commencez pas au niveau de celui qui est déterminé par quelqu'un qui vous dirait « Vaut mieux que tu commences par là ». Commencez à analyser la situation pour savoir quelles sont vos compétences, votre profil, vos aptitudes, vos savoir-faire, votre connaissance, pour commencer à changer à votre niveau. Pas plus haut que votre niveau, pas en deçà de votre niveau. Si vous commencez à travailler en deçà de votre niveau, vous serez conscient de ne fournir aucun effort pour changer. En fait, vous ne changez pas, puisque vous savez déjà faire ce que vous faites là. Vous maîtrisez déjà complètement. Donc, vous êtes en train de vous mentir à vous-même et de participer à faire dépérir une partie de votre image de vous. Mais il faut commencer à votre niveau. Vous voulez commencer au-dessus de votre niveau, d'accord, mais un cran au-dessus, une marche. Si on prenait la symbolique de l'escalier, ne vous dites pas que vous allez franchir les étapes en montant l'escalier 5 marches par 5 marches. Commencez par une marche. Une seule marche. Ouais, mais c'est trop fastoche. On s'en moque. Commencez par une seule marche. Et ne vous dites pas que c'est trop fastoche. Si vous avez franchi rapidement la première marche, ben franchissez la suivante plus tôt. On s'en moque des difficultés. On a dit qu'on a fait fi de la notion de difficulté. Le principe consiste à avancer sans tenir compte de difficile ou facile, de dur ou pas dur. Donc franchissez la première marche. Et si vous avez franchi la première marche assez rapidement, ben dès que vous l'avez franchi, vous passez à la suivante. Enfin, je dis rapidement, mais dès que vous l'avez franchi, sans tenir compte de la vitesse, passez à la suivante. Puis dès que vous avez franchi la suivante, passez à la suivante. Mais inutile d'essayer rapidement de passer de 4 marches à 4 marches, de 5 marches à 5 marches, de 8 marches à 8 marches. Parce que le jour où vous allez... Je ne vais pas vous donner la raison. J'y viens après. Franchissez donc les marches les unes après les autres. Faites un pas après l'autre. J'ai utilisé la notion de marche comme si on pouvait faire du 4 à 4 ou du 5 par 5. Mais l'intérêt du pas, par exemple, quand on marche, c'est qu'on ne peut pas faire... 5 pas à la fois. On est obligé de faire un pas à la fois. Donc dans votre progression, gardez aussi peut-être l'image peut-être du pas simplement quand vous marchez. Oubliez la notion de difficulté. Il n'y a rien de difficile à faire 150 km parce qu'en fait, vous les avez franchis depuis longtemps les 150 km de marche. Seulement, vous n'en avez pas rendu compte parce que vous avez fait un pas après l'autre. Et ça introduit tout de suite la troisième étape. Utilisez la répétition. Alors, je vais prendre une image qui va vous parler, peut-être. Je me suis retrouvé, par exemple, à différents endroits, et c'est le cas à Marseille, où, en bord de mer, on a mis des très gros blocs de pierre qui font plusieurs tonnes chacun, les uns à côté des autres, puis les uns sur les autres, pour tout simplement faire en sorte que la mer ne détruise pas la plage qui a été fabriquée, d'ailleurs artificiellement. Mais si on part de la notion de plage, on peut se retrouver, par exemple, comme ça a été le cas pour moi en Vendée, j'étais au Pouligan, où en bord de plage, comme ça, je vois une maison en hauteur, hein, elle était à une dizaine de mètres de haut, sur un promontoire, et je vois que sous la maison, en fait, le terrain est carrément grignoté au point que la préoccupation de la durée de vie de la maison sur cette falaise s'est posée. C'est-à-dire, mais combien de temps la falaise sous la maison sera-t-elle présente ? Alors, je vous pose la question. Est-ce que la mer a travaillé très dur pour grignoter la falaise et faire que, progressivement, la mer gagne du terrain sur la partie terre et rocheuse ? Non. Elle n'a pas travaillé dur, ni à Marseille, ni au Pouligan. Alors si la mer n'a pas travaillé dur pour réussir à grignoter la falaise et elle a abîmé au point que cette maison se retrouve en danger, comment a-t-elle fait ? La mer a suivi une règle simple de la nature, la répétition. Je vous ai dit que vous avez déjà parcouru 150 km sans vous en rendre compte, parce que vous avez, sans vous en rendre compte, répété le principe qui est que pour avancer, on fait un pas après l'autre. Si vous intégrez cette réalité inscrite en vous, que la répétition prévaut sur la force du travail, vous vous rendrez compte que vous pouvez amener les changements considérables dans votre vie. C'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose à la notion de régime. Parce que quand on fait un régime alimentaire, on se donne l'impression qu'il faut travailler dur pour changer. Alors pendant un temps déterminé, on va transformer son alimentation, puis on va manger ceci, on va manger cela, et surtout on va s'interdire de manger ceci et cela, et quand c'est difficile, on retient fort. Alors beaucoup des régimes ont compris le principe et disent, bon, vous avez droit à une fréquence de temps de fois pour manger votre petite gourmandise. Comme ça, on a l'impression d'avoir une petite récompense après un gros effort. Le problème est que on continue à nourrir l'idée qu'il faut travailler dur pour perdre du poids. Pourtant, on préfère mettre en avant l'impression, enfin le principe d'un style de vie pour amener à une perte de poids. Il suffit de répéter quotidiennement une nouvelle habitude alimentaire et de ne plus la cantonner à un effort difficile et peut-être même, si ça s'y prête, ça peut être amener un changement. Puis après, au bout de quelques temps, en amener un suivant et en amener un suivant. Je ne demande pas que vous fassiez, justement, des efforts au point que vous ayez des courbatures et que vous ayez mal quand vous avez pratiqué un exercice physique. Surtout pas. Ne vous faites pas mal, ça ne sert à rien. La souffrance n'est pas du tout aidante dans ce cas-là. La souffrance a pour objectif de vous alerter sur le fait que vous avez dépassé une limite. Donc merci la souffrance. Par contre, pratiquez régulièrement, quotidiennement, et peut-être pluri-quotidiennement la même chose, et arrêtez-vous avant la souffrance. Et vous vous rendrez compte qu'à force de le faire, vous allez dépasser la zone de souffrance. C'est exactement ce qui se passait quand on faisait notre activité d'endurance en sport. Au début, on avait un point de côté après avoir fait même pas un tour complet du stade. Et puis à force de le faire, eh bien, le point de côté arrive un petit peu plus tard. Et puis il arrive encore un petit peu plus tard. Ça aurait été génial que le professeur tienne compte de cela et dise aux élèves « Attention, je ne veux pas que vous souffriez pendant votre exercice physique ». Dès que vous avez l'impression de commencer à souffrir, arrêtez-vous. Ça veut dire que vous avez atteint une limite dans laquelle votre corps vous demande de vous arrêter. Respectez-vous. Et quand ça va mieux, vous pouvez reprendre. Et cette reprise régulière va faire que le corps va s'habituer et faire progressivement que cette limite se repoussera avant qu'on arrive à la douleur. Alors, faut-il travailler dur pour changer ? Non, pas du tout. Oubliez la notion de travail, oubliez la notion de difficulté. Visez quelque chose qui correspond à vous, à votre personne. Commencez par quelque chose qui est vraiment à votre niveau, pour ne faire qu'un pas après l'autre, puis utilisez le principe de la nature, la répétition. La répétition. Si vous avez envie d'une illustration qui est assez pratique, qui peut vous permettre de... en même temps de vous évader et en même temps d'ancrer cette réalité, allez chercher le livre qui s'intitule « L'homme qui plantait des arbres ». Je ne vous raconte pas l'histoire, mais il est une belle allégorie du fait qu'il ne faut pas faire beaucoup de travail, pas faire un travail difficile pour faire naître une forêt. Cet homme, avec ce récit, est une vraie parabole. Pour répondre à la question « Faut-il travailler dur pour changer ?», la réponse est non. Et l'homme qui plantait des arbres pourrait dire « Non, ça n'est pas dur du tout. » Passez à l'exercice maintenant, faites votre travail pour viser l'accès adapté, pour savoir par où commencer et travailler, à commencer à votre niveau et utiliser la répétition comme les vagues sur des rochers qui sont tellement durs que même vous, avec un marteau, vous n'y arriveriez pas et vous auriez tendance à vouloir taper très fort avec votre marteau. Mais ce n'est pas la peine. À force de répétition, comme les vagues sur les rochers, vous y arriverez. Certains diront « oui, mais il faut beaucoup de temps ». Non, non, le temps n'est pas un acteur. Le temps est un spectateur. Ce n'est pas le temps qui va permettre que vous changiez. C'est la répétition de votre action. Donc il y a une concordance avec le temps, c'est que la répétition demande du temps. Vous avez déjà parcouru plus de 150 km à pied, comme je l'ai déjà dit. Vous n'avez pas dit qu'il faut du temps pour le faire. Vous avez... juste faites votre action en vous inscrivant dans une réalité qui a commencé au présent, vous avez commencé à marcher et puis qui se poursuit devant vous. Avant de vous laisser, je vous rappelle que l'on se retrouve dès vendredi tous les jours pendant 30 jours. 30 rendez-vous, ni plus ni moins, pour vivre votre bonheur. Vous pouvez saisir cette opportunité et partager avec des personnes que vous avez le souhait de voir heureuses. Pour que ce mois, ces 30 jours, soient vraiment une réussite, je vous propose de prendre votre agenda, de définir un horaire précis dans la journée pendant lequel vous allez vous isoler pour prendre le temps de vivre ces 30 jours pour vivre votre bonheur. Ça peut être au volant de votre voiture, sachant que vous n'aurez pas votre cahier de vie, donc il y a quand même quelques inconvénients. Ça peut être de vous dire, je prendrai 20 minutes tous les matins ou 20 minutes tous les soirs, seul, rendez-vous avec moi-même pour travailler à mon bonheur pendant ces 30 jours. Disciplinez-vous, utilisez-le comme un challenge, ou comme un jeu, comme un défi, comme vous voulez, mais faites en sorte que ces 30 jours soient pour vous, vraiment, 30 jours pendant lesquels vous allez semer et finalement récolter du bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je suis heureux que vous ayez été présent pour ce rendez-vous, parce que les changements que vous allez insufflés dans votre vie vous paraîtront vraiment tout à fait acceptables à votre portée. Alors travaillez-y et réjouissez-vous de ce que vous aurez déjà produit comme changement, mais si vous ne faites que commencer maintenant et que vous ne voyez encore aucun changement dans votre vie. Considérez que vous avez déjà changé, puisque vous commencez à changer là, maintenant.